Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père !» Isaac dit « Me voici, lequel de mes fils es-tu ? » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Ésaü, je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela, tu en as vite trouvé, mon fils ?» Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit tous ceux qui te maudiront et béni soit tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père, Isaac, lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père !» Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Ésaü éprouva de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?»
Mon grand-père maternel était un homme cultivé, qui aimait réfléchir, qui aimait la philosophie, qui s'intéressait à la foi de bien des manières et en même temps se disait agnostique. Et avec lui, à l'époque, j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de discussions, mais aussi le sentiment de tourner un peu en rond lorsqu'il s'agissait de parler de la foi. Mais je me souviens d'une discussion en particulier que j'ai vécue un peu difficilement. C'est lorsque je lui ai annoncé, ça fait un petit moment maintenant, lorsque je lui ai annoncé que je souhaitais devenir pasteur. Mon grand-père, agnostique, avait d'autres idées en vue pour moi, pour mon avenir, et sur le moment, il a assez mal réagi. Et c'est quelque chose que j'ai vécu assez difficilement. C'était douloureux pour moi de sentir qu'il était déçu, qu'il était attristé, parce que mon choix ne correspondait pas à l'idée qu'il s'était faite d'une carrière réussie. Mais au début de l'année 2007, j'ai eu une conversation téléphonique avec lui. On a parlé de choses et d'autres. Et à la fin de cet appel téléphonique, il m'a dit « Écoute, je voulais te dire quelque chose. » Il m'a dit qu'il avait réfléchi à mes choix de vie et qu'après réflexion, il était heureux pour moi. Il a dit « Tu as choisi ce qui correspondait à tes convictions les plus profondes. Je le comprends. » Et je le respecte. Et il a conclu en disant, tu as fait le bon choix. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Il est décédé quelques semaines plus tard. Je ne sais pas si mon grand-père a pu, avant son départ, se réconcilier avec son Créateur. Je l'espère. Mais je sais que j'ai vécu ces dernières paroles, à mon égard, comme une forme de bénédiction. Invoqué sur moi, en quelque sorte. La question de la bénédiction, elle est au centre de ce texte que Christelle nous a lu. On a affaire ici à une sombre histoire de famille, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, c'est dans ce contexte obscur que Dieu va agir, que Dieu va dévoiler ses projets, malgré les erreurs humaines. Et Dieu va dévoiler sa bénédiction, ses bons projets, sa faveur, qui concerne un homme, une famille, et même au-delà, qui concerne l'humanité entière. Ce texte nous montre combien, dans un contexte de grande insuffisance humaine, la bénédiction de Dieu est profondément désirable et précieuse. Donc on va réfléchir à cela, et à la manière aussi dont on peut saisir cette bénédiction de Dieu aujourd'hui. Et on va y réfléchir en deux temps, en parlant d'abord d'un avenir qu'il faut assurer, et puis une parole qu'il faut assumer. Donc d'abord, un avenir qu'il faut assurer. Alors vous savez bien qu'en France, on aime dire qu'il faut séparer la vie publique de la vie privée. Ça, c'est un des grands principes, en particulier de notre vie politique. Nous sommes, après tout, le pays où les deux derniers présidents en exercice ont eu des histoires de cœur pendant leur mandat présidentiel, se sont séparés de leur conjointe, en ont choisi une nouvelle pendant un quinquennat. Mais la réalité, au-delà de ces slogans, séparation vie publique, vie privée, la réalité, c'est que la manière de vivre en privé en dit souvent beaucoup plus sur quelqu'un que la manière d'apparaître en public. Et la Bible, elle, montre régulièrement l'importance de ce qui se joue en privé. Dans ce texte, on a affaire à une histoire privée, une histoire de famille, qui se joue à petite échelle, a priori, mais qui va finalement avoir un impact à grande échelle. Alors, il faut reconnaître que ce récit n'a rien à envier aux plus grandes sagas. Tout y est, problème de couple, favoritisme, mensonges, trahison, larmes, cris, menaces de meurtre, fuite, tout y est, en quelques versets. Et l'histoire est d'autant plus dramatique quand on la place dans son contexte. Alors, on ne peut pas revenir ce soir sur tout ce qui précède dans le livre de la Genèse, mais on peut rappeler qu'Isaac, c'est l'enfant que Dieu a promis à Sarah et Abraham et qu'il leur a donné alors qu'ils avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant. C'est celui qu'ils ont cru perdre ensuite et qui leur a été rendu. Mais c'est celui surtout qui hérite des promesses faites à Abraham et à sa famille et à sa descendance. Promesse d'une terre, promesse d'une relation personnelle avec Dieu, promesse d'une descendance nombreuse et d'une bénédiction de Dieu qui un jour, un peu mystérieusement, serait étendue à des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre. Alors avec tout ça, on s'attend à ce que Isaac vive un destin un peu de super-héros. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on découvre dans ce texte? Un Isaac passif, faible, usé, qui préfère son fils aîné. Ça, on l'a vu au chapitre 25. Pourquoi? Pour quelle raison vertueuse? Parce qu'il lui apporte de bons petits plats à manger. Un Isaac qui fait preuve de faiblesse et de naïveté. On découvre aussi un couple, Isaac et Rebecca, dont l'histoire avait pourtant bien commencé. C'était romantique, c'était joli, avec un serviteur qui est parti dans le pays voisin pour aller chercher une jeune fille pour le fils de son maître, et puis il rencontre Rebecca à côté du puits, etc. C'est une belle histoire. Mais là, on découvre un couple qui désormais ne communique pas, où Rebecca, face à un mari passif, en vraie manipulatrice, doit flatter les instincts les plus primaires de son mari et le prendre par ruse pour parvenir à ses fins. On voit deux frères, a priori donc les héritiers, les petits-fils d'Abraham, héritiers de cette famille illustre, mais qui ne s'entendent pas. On a un aîné emporté et irréfléchi, sans maîtrise de soi, et un fils cadet plus sophistiqué, mais tricheur, menteur, qui abuse de la faiblesse de son père et de son frère, tout en étant à la botte de sa mère. Quelle famille quand même ! Quelle famille ! Et pourtant, c'est cette famille que Dieu a choisie pour commencer à mener à bien son projet de rédemption de l'humanité rebelle. Peut-être que finalement, dans un sens, cette famille est un peu emblématique aussi de l'humanité entière. Et ce texte nous place de façon saisissante devant le contraste entre les errances des hommes et la promesse de la bénédiction de Dieu. Il nous permet de voir que là où les hommes sont infidèles, Dieu est fidèle. Là où les êtres humains sont inconsistants, et décevant, Dieu, lui, est souverain et puissant. Là où l'avenir semble être une perpétuelle répétition du passé, Dieu promet une sortie de ce cercle vicieux. Il maîtrise le temps et l'éternité. Rebecca, donc la mère des jumeaux, la femme d'Isaac, quoi qu'on puisse dire de ses actes assez lamentables dans ce récit, il faut reconnaître qu'elle n'a pas oublié que Dieu a fait des promesses à sa famille. Elle n'a pas oublié que Dieu lui a révélé, alors qu'elle était encore enceinte des jumeaux, que c'est le cadet, c'est le plus petit des deux frères, qui jouerait un rôle important dans le plan de Dieu. Et je vous renvoie au message de dimanche dernier, au chapitre 25. Par contraste, son mari Isaac semble bien loin de toutes ses réflexions. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un bon plat de viande. Le fiston Ésaü était plutôt amateur de lentilles, mais lui, papa Isaac, lui, c'est un bon rôti qui lui plaît. Il ne savait sans doute pas à l'époque que c'était potentiellement cancérigène. Et en tout cas, il ne veut rien savoir de ce qui s'est passé quelques temps plus tôt, de cet incroyable renoncement d'Ésaü, que vous avez vu avec Paul dimanche dernier, cet incroyable renoncement d'Ésaü qui a cédé son droit d'aînesse pour un peu de nourriture. Isaac a décidé, lui, malgré cet événement passé, que c'est Ésaü qu'il préférait. Et c'est à lui qu'il veut transmettre sa bénédiction. C'est lui qu'il veut considérer comme l'aîné. C'est lui qui sera, selon Isaac, l'héritier des promesses de Dieu. Et on le voit par les mots qu'il emploie en bénissant celui qu'il croit être Ésaü. Verset 29. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Isaac, en plus, affirme prendre l'Éternel à témoin. Verset 7. Il affirme qu'il va bénir son fils au nom de l'Éternel. Mais on voit qu'en réalité, il se soucie bien plus de sa manière de voir, de son favoritisme, plutôt que de la volonté de Dieu. Mais Dieu reste maître des événements. Et même si le procédé utilisé par Jacob et sa mère, donc faire passer Jacob pour Ésaü, est malhonnête et déplorable, et le texte le souligne bien, le texte ne cherche pas à dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, Pas du tout, au contraire, il insiste assez lourdement sur le mensonge répété de Jacob malgré les suspicions de son père. Malgré donc cet aspect tout à fait condamnable, Dieu va utiliser les circonstances pour faire avancer ses projets. Dans sa souveraineté, Dieu peut utiliser même nos fautes, aussi condamnables à ses yeux soient-elles, pour faire advenir sa volonté. Et l'exemple par excellence dans la Bible, c'est la mort de Jésus sur la croix. Un acte injuste et terrifiant, le pire des blasphèmes. Et pourtant, Dieu en a fait le point culminant de son grand projet pour sauver les hommes et se réconcilier avec eux. Dieu seul a cette capacité de retourner le mal contre lui-même. Dans notre texte, on comprend que ce drame familial, que dans ce drame familial, la seule éclaircie, la seule espérance, c'est le fait justement que Dieu, lui, il garde le contrôle des événements. Il ne se laisse pas entraîner dans cette sombre histoire de famille. Et il va offrir une nouvelle perspective, un nouveau départ. Et dans ce texte, les actions déplorables des hommes mettent d'autant plus en relief l'aspiration à une réalité nouvelle que Dieu offre. Si on se souvient des promesses faites à Abraham et puis à Isaac, Dieu a promis un nouveau pays, un nouveau peuple, un avenir glorieux et même la paix dans un avenir plus lointain entre des hommes et des femmes de toute nation qui partageront ensemble la bénédiction de Dieu. Et Jacob veut s'inscrire dans ses projets. Il ne s'agit pas de dire qu'il avait tout compris de ses projets de Dieu, mais il me semble que ce texte le présente tout de même comme celui qui veut saisir à pleine main la bénédiction de Dieu, saisir ce qu'il y a de plus précieux. Et à ce titre, au moins, c'est un homme de foi. Posons-nous la question, est-ce qu'au-delà de nos circonstances, souvent assez troubles, décevantes, voire peut-être tordues, est-ce que nous sommes prêts à lever la tête, à regarder au-delà de nos circonstances immédiates, pour discerner comment nous pourrions saisir les promesses de Dieu, comment nous pourrions nous inscrire dans les projets fermes de Dieu, plutôt que dans nos projets, souvent incertains, voire tout à fait mal inspirés. Or, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de rivaliser comme Jacob et Ésaü pour obtenir cette bénédiction de Dieu. Pas besoin de rivaliser les uns contre les autres parce que ces promesses, cette bénédiction, nous pouvons les recevoir ensemble. Parce que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, offre sa bénédiction, sa faveur, sa grâce à tous ceux et celles qui veulent bien la recevoir par la foi. Peu après la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit dans la vie de tous les disciples, Pierre, l'apôtre Pierre, proclame à une foule de plusieurs milliers de personnes réunies cette promesse, cette offre faite à tous. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 38-39. Et l'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, « En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, que se trouve le oui. » Et le même apôtre Paul écrit au début de sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et il poursuit au verset 5, « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Avant de conclure au verset 10, en dévoilant le but final de cette bénédiction divine, « Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Dieu veut détruire le mal, déconstruire le mal, la futilité, la lassitude, les conflits, l'amertume, les jalousies, les trahisons, les peines, toutes ces choses qui font encore partie de notre réalité présente. Et Dieu promet un monde entièrement nouveau, placé sous l'autorité de son Messie, son Fils Jésus-Christ. Voilà le plan large qui nous est dévoilé ici, dans ce texte de l'apôtre Paul en particulier. Est-ce que nous avons le désir de nous placer, de nous situer dans ces projets de Dieu ? Est-ce que nous avons le désir de saisir à pleine main cette bénédiction de Dieu qui nous est librement offerte. Et pour beaucoup d'entre nous, je crois que nous l'avons saisie. Est-ce que nous avons bien compris à quel point notre vie est entièrement redéfinie par cette bénédiction de Dieu, cette vie nouvelle avec Dieu que nous avons saisie? Et si nous ne l'avons pas encore saisie, et nul doute que plusieurs parmi nous, encore ce soir, n'ont pas encore saisi cette promesse qui leur a été faite en Jésus-Christ. Alors considérez ces paroles, considérez ces textes et cette liberté qui est offerte à tous ceux et celles qui veulent bien recevoir cette bénédiction de Dieu. Ce texte donc nous parle d'un avenir qu'il faut assurer, mais aussi d'une parole qu'il faut assumer, c'est notre deuxième point. Si un ami vous donne rendez-vous tel jour à telle heure pour prendre un verre, que vous y allez et qu'il ou elle n'est pas là, alors vous essayez de le joindre, pas de réponse. Finalement, plus tard, le lendemain, lorsque vous l'avez joint, il ne s'excuse pas, il n'explique pas pourquoi il n'était pas là, mais il dit juste « Ah bah oui, finalement, je ne suis pas venu ». Ça va quand même vous laisser sur votre faim, vous risquez de le prendre assez mal. Parce que la parole donnée a du poids. Mais à l'époque très ancienne dont ce texte nous parle, la parole avait encore plus de poids parce qu'il n'y avait pas de papier, pas de stylo, pas d'avocat, donc pas de contrat signé. L'écriture existait mais n'était pas très facile d'accès. Donc on ne faisait pas comme aujourd'hui pour sceller une promesse ou pour s'engager en signant un document. À l'époque, la manière de montrer qu'une parole avait du poids, c'était de faire un serment, de prêter serment, de prononcer une parole en prenant Dieu à témoin. Alors de nos jours, il y a assez peu de circonstances dans la vie sociale où une simple parole prononcée est considérée comme ayant une telle autorité. Il y a un exemple parmi quelques autres sans doute qui demeure, c'est la cérémonie de mariage. J'ai entendu parler, pour de vrai, d'un mariage civil qui a été annulé parce que l'un des conjoints, au dernier moment, devant le maire, a dit non. Apparemment, ça n'arrive pas que dans les films. Le oui du mariage est un oui solennel, un oui qui engage, un oui qu'il faut ensuite assumer. Eh bien, lorsqu'Ésaü a volontairement cédé son droit d'aînesse à Jacob, ça avait du poids. Et Ésaü va devoir assumer la conséquence de son acte. Et de même, lorsqu'Isaac prononce une bénédiction en faveur de Jacob en pensant que c'est Ésaü, sa parole a du poids. D'autant plus qu'il la prononce devant l'Éternel, sous l'autorité de l'Éternel. Isaac devra assumer. Et d'ailleurs, il le reconnaît parfaitement, verset 33. « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Donc pour Isaac, c'est une évidence. La bénédiction qu'il vient de prononcer est irrévocable. Et même Ésaü le reconnaît. On constate, si on regarde bien, qu'il ne demande pas à son père d'annuler la bénédiction faite à Jacob, adressée à Jacob. Il demande une autre bénédiction. « N'as-tu pas encore une bénédiction en réserve pour moi, mon père ?» La scène est saisissante, pleine d'émotion. Verset 34, « Bénis-moi aussi, mon père !» La scène est saisissante parce qu'elle a une portée universelle, en quelque sorte. Combien d'hommes aujourd'hui veulent, ou voudraient, ou auraient voulu dire ça à leur père ?« Bénis-moi, mon père !» Dis-moi que ma vie a du poids à tes yeux. Dis-moi que tu es fier de moi. Mais ce qui est en jeu ici, c'est plus considérable encore que l'approbation d'un père à l'égard de son fils. C'est la bénédiction de Dieu qui est en jeu. Et Ésaü, pour la première fois, semble prendre conscience de la gravité de ce qui se passe. Verset 38, il se mit à pleurer tout haut. Et là, Isaac va prononcer à l'égard d'Ésaü, inspiré par Dieu, semble-t-il, dans un sens, une sorte d'anti-bénédiction, mais qui se termine toutefois par une parole d'espoir. Dieu fera encore du bien à Ésaü, il prendra tout de même soin de lui, il lui permettra de vivre libre, mais il n'héritera pas de la bénédiction dont Jacob a hérité. Le père comme le fils devront assumer leurs paroles et leurs actes. Aujourd'hui, en lisant cette histoire, on peut se dire que tout ça est bien étrange. Et à cette époque du tout juridique, on aurait tendance à invoquer un vice de procédure pour essayer d'annuler la bénédiction reçue par Jacob, ou on encouragerait Isaac à porter plainte pour abus de faiblesse et Ésaü à se porter partie civile. On a du mal aujourd'hui à assumer nos paroles et nos actes. Mais si on était tenté de croire que tout ça, c'est des histoires de culture ancienne et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de pertinence pour nous, on doit se laisser reprendre par des paroles que Jésus adresse à ses disciples de tous les temps. Matthieu 5, verset 37, « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. » Et dans ce même texte, Jésus affirme que la parole de ses disciples doit être si sûre qu'ils n'ont même plus besoin de prononcer des serments, parce que leur oui est ferme, leur non est ferme. Un autre texte, Matthieu 12, 36, Jésus dit ceci, « Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Laissons-nous imprégner un peu de cette phrase, parce qu'elle est quand même forte, elle est quand même saisissante. Les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Et si notre parole avait beaucoup plus de poids que ce que nous pensons? Et si, à cette époque où la parole est démultipliée par les moyens de communication moderne, où on n'arrête pas de parler dans un sens, et si les chrétiens se démarquaient, montraient une autre manière de vivre, en étant des hommes et des femmes qui veillent sur leurs paroles, des hommes et des femmes dont le oui est vraiment oui, dont le non est vraiment non, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils disent « j'y serai », s'estiment liés par cette parole. Il y a bien sûr des cas de force majeure, mais s'estiment liés, s'estiment engagés. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils disent « je vais prier pour toi », s'estiment liés par cette parole. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils disent à leur conjoint ou à leur enfant « je t'aime », s'estiment liés par cette parole. Des hommes et des femmes qui sont conscients, à l'inverse, qu'une parole désobligeante, mal intentionnée, a du poids et marquera parfois l'autre pendant des années. Alors, en entendant cela, peut-être que vous dites que tout ça, c'est un petit peu écrasant. Et après tout, qui n'a pas prononcé parfois des paroles à la légère et imprudemment, qui jette la première pierre? C'est vrai. Qui n'a pas dit des choses qu'il regrette? Et c'est là que nous devons être remplis de reconnaissance de ce que Dieu, lui aussi, a prononcé des paroles à notre égard. Après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. L'apôtre Paul affirme de son côté, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ, Romains 3, 23, 24. Et il ajoute plus loin dans la même lettre aux Romains, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai l'assurance. Dieu soit loué, sa parole surpasse la nôtre. Et son oui parfaitement ferme, dans lequel nous pouvons ancrer notre vie, dépassera toujours nos oui mais, nos oui peut-être, nos on verra bien. Et sa bénédiction qui repose sur sa promesse est pour nous une encre pour l'âme, pour reprendre un langage biblique utilisé dans la lettre aux Hébreux, une encre pour l'âme. Or, si nous sommes les disciples de Jésus, si nous avons ancré nos vies dans ces promesses fermes de Dieu, nous aurons à cœur de nous laisser transformer peu à peu à sa ressemblance pour être des hommes et des femmes qui tiennent parole et qui, dans ce monde d'incertitude permanente, donnent un aperçu de la ferme assurance que Dieu tient en réserve pour nous, de cet avenir qu'il faut assurer. Prions. Père, nous voulons te remercier parce que ta parole surpasse la nôtre, parce que malgré toutes nos insuffisances, toutes nos imprudences, tous nos actes douteux, comme on voit dans ce texte, eh bien, Père, tu mènes à bien tes projets pour nous. Et nous te demandons de nous donner, de saisir cette bénédiction, si nous ne l'avons pas encore faite, cette bénédiction que tu nous offres, cette faveur, cette grâce, ce pardon que tu nous offres gratuitement et pleinement. Et pour ceux d'entre nous qui l'avons saisi, nous te demandons de nous donner, de nous laisser transformer peu à peu par toi, pour que nous puissions de mieux en mieux refléter qui tu es et la fermeté de ta parole, de tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.